La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La compagnie des auteurs, deuxième épisode aujourd'hui de notre série consacrée à l'écrivain autrichien Stefan Zweig. Zweig, né en 1881 à Vienne, est mort en exil au Brésil à l'âge de 60 ans, au terme d'une vie consacrée à l'écriture, à la fois de ses fameuses nouvelles, mais aussi d'essais, de pièces de théâtre, ainsi que de nombreuses biographies, un genre très prisé dans la première partie du XXe siècle. Il a ainsi rédigé des vies de Verlaine, de Fouché, de Magellan, d'Érasme, de Marie-Antoinette, de Marie Stuart et bien d'autres. Zweig a en effet toujours aimé mettre ses pas dans ceux de grands personnages qu'il admirait et auxquels sans doute il voulait se comparer. Nous commencions hier déjà de l'évoquer dans la première émission biographique. Alors parmi les grands hommes que Zweig admirait et à qui il a consacré des études, notamment une étude dans l'un de ses livres, se trouve en bonne place le docteur Freud. Il ressentait envers lui une dette profonde et tous deux ont longtemps correspondu. De cela et de son rapport à la psychanalyse, nous parlerons demain dans une émission consacrée en seconde partie à la correspondance de l'écrivain autrichien. Et enfin, jeudi, c'est de l'Européen dont il sera question, lui qui concevait ce continent comme une ère culturelle unie avec un type psychologique dépassant les frontières et qui avait sous-titré son dernier livre « Souvenirs d'un Européen ». Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, il est temps de parler des romans, des nouvelles et de la fiction du grand écrivain autrichien. Le germaniste Jean-Pierre Lefebvre est avec nous, traducteur de Hegel, Hölderlin, Marx, Freud et Paul Celan, entre autres. Il a supervisé la Pléiade Zweig, parue chez Gallimard en 2013. Nous sommes en sa compagnie jusqu'à 16h.
Quelle est la place de Stefan Zweig dans cette pléiade de génies? Il est l'un des plus jeunes puisqu'il est né à Vienne le 28 novembre 1881. Il n'est certes ni le plus révolutionnaire ni le plus créateur, mais il est sans doute le plus intelligent et certainement le plus cultivé. C'est aussi celui dont la vocation internationale était la plus marquée. Il parlait couramment le français, l'anglais et l'italien et il voyagea dans le monde entier. Ses monographies littéraires et historiques couvrent un champ immense puisqu'elles ont renouvelé l'idée que nous nous faisions d'Erasme, de Fouché, de Dickens, de Nietzsche, de Casanova et de bien d'autres, sans oublier Balzac, auquel il consacra son ouvrage le plus considérable. Par ailleurs, c'est essentiellement dans l'art de la nouvelle qu'il excella. Là, Stefan Zweig est maître, un très grand maître. Il dépasse même Thomas Mann, dont la plupart des nouvelles sont plutôt des ébauches de romans.
Bonjour Jean-Pierre Lefebvre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui de la littérature de Stefan Zweig. Vous avez passé votre vie professionnelle à traduire et à lire de la littérature germanique et on vient d'entendre à l'instant Michel Tournier qui resituait Zweig parmi les autres écrivains de langue allemande de son temps. D'abord, est-ce que vous diriez, vous aussi, qu'il est le plus intelligent et le plus cultivé parmi tous ces auteurs ?
Non. C'est-à-dire que c'est assez difficile d'apprécier l'intelligence des gens et même le champ de leur culture. En revanche, ce que Michel Tournier a sans doute voulu dire par ce superlatif, c'est quand même qu'il était extrêmement intelligent et extrêmement cultivé et que ça apparaît dans la plupart des choses qu'il a écrites et que c'est aussi le fond de son propre amour de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une conviction appuyée sur une intelligence des choses, de l'utilité, une conviction de l'utilité humaine de la littérature, en particulier de la littérature qu'il écrit, et avec cette ambition profonde et vaste, il était aussi astreint à une espèce d'enquête générale sur l'humanité. Du coup, il s'est intéressé à des tas de choses de nature historique, de nature culturelle, et chaque fois qu'il est entré dans la fiction, il a toujours appuyé sa fiction sur des éléments qu'on peut pas dire proprement historiques, mais qui n'entraient jamais en conflit avec ce qu'on peut savoir des univers dans lesquels il situait ses écrits.
Donc vous diriez que c'est une littérature qui est au service, pas seulement de la littérature, mais au service d'autres choses. D'abord au service des lecteurs qui peuvent apprendre de la vie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là chez Stefan Zweig qui voulait être utile à ses lecteurs.
Absolument. Avant donc d'entrer en relation avec Freud, il a eu un contact tout à fait original pour quelqu'un de son époque et de son même de son origine, sociale, des contacts avec des pédagogues, notamment avec une pédagogue suédoise, avec des gens comme ça qui avaient tenté des expériences pédagogiques en direction de la jeunesse dans un esprit très nouveau, qui anticipait d'ailleurs souvent largement sur la révolution que le travail de Freud va ensuite induire de manière plus théorique. Et donc, il a toujours été très attentif à ces phénomènes, je ne vais pas dire psychopédagogiques, ce serait inapproprié, mais des phénomènes de nature psychologique, portant, enfin concernant des individus en transition, passant d'un âge à l'autre, d'où d'ailleurs pour son éditeur la possibilité, quand il s'est agi de regrouper des nouvelles, d'intituler pratiquement un recueil enfance avec différentes nouvelles concernant différents enfants, des garçons, des filles, pubère, prépubère, avec à l'horizon donc du texte entre les lignes déjà une perception de toute une série de choses qui ont pu intéresser Freud lui-même et en tout cas qui ont intéressé les gens de l'époque qui les intéressent toujours, notamment en ce qui concerne la sexualité, mais aussi la pulsion de mort, c'est-à-dire ce sont vraiment deux pôles déjà très présent, y compris dans les histoires qu'il raconte à propos d'enfants.
Alors, ça pose plusieurs questions, ce que vous venez de nous dire. D'abord, dans quelle mesure est-ce que les difficultés psychologiques de Zweig sont à l'origine, peut-être, de cette volonté de comprendre par lui-même d'abord, par ses fréquentations ensuite, et dans sa littérature de comprendre le fonctionnement de l'âme humaine. Et puis, est-ce que ce côté utile, au fond, cette espèce d'efficacité, on reviendra peut-être sur ce terme d'efficacité tout à l'heure en parlant de la prose de Zweig, est-ce qu'elle n'est pas là, justement, ce qui pose une limite à sa littérature?
Oui, on peut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est cet intérêt précoce pour les détails, les méandres les plus subtils de la vie d'un psychisme non seulement chez des enfants mais aussi chez des personnages de tous les âges hein, dans ces nouvelles elle peut avoir été au départ naïve et non nécessairement fondée sur des difficultés propres. Ce qui est sûr, c'est que il y a une curiosité dès le départ, et non seulement une curiosité, mais une insistance, une persévérance, qui vraiment constitue un des éléments les plus forts de la réussite de l'auteur, de l'écrivain Zweig. Et par la suite, il est sûr que toute cette sensibilité qui ensuite est acculturé par justement les contacts avec ses pédagogues, ses psychologues, puis sur le tard avec Freud, mais il avait aussi eu son contact avec Schnitzler qui allait un peu dans le même sens. Voilà, il se peut, parce que malgré tout, le geste par lequel il s'est donné la mort, et lui et Charlotte se sont donné la mort, est un geste qui demeure largement énigmatique. Mais il se peut que, examinant sa vie, ce qu'elle était devenue, ce qu'elle pouvait encore devenir, etc., il se soit appuyé sur une connaissance du psychisme qui en l'espèce, l'avait plutôt décidé dans le sens du suicide. Hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est absolument indécidable de l'extérieur.
On reviendra peut-être sur ce point et on y reviendra aussi mercredi quand nous traiterons davantage du rapport entre Zweig et Freud. Alors Michel Tournier le soulignait dans l'archive qu'on vient d'entendre, Jean-Pierre Lefebvre, Zweig c'est un auteur de nouvelles. Il n'y a pas de roman sauf un qui s'appelle Impatience du cœur. Comment est-ce que vous expliquez cette préférence-là? Est-ce que lui-même s'est expliqué là-dessus?
Il ne s'est pas expliqué là-dessus, vraiment, et il en a toujours été conscient. C'est-à-dire, et non seulement lui en a été conscient, mais les gens qui vivaient autour de lui et qui observaient son comportement d'écrivain, le pensait. Il a écrit un seul roman.
Il en a commencé d'autres,
sur le tard d'ailleurs, qu'il n'est pas arrivé à terminer. On ne peut exclure qu'il ait été en partie intimidé par la grande masse d'œuvres romanesques qui sont parues à la même époque. Et qui, avec du succès, en particulier dans le cas de Roth, par exemple, de Joseph Roth, qui écrivait roman sur roman, etc., et qu'il admirait beaucoup. Et donc, qu'il ait eu, comme ça, une espèce de, disons, d'angoisse du ratage. Quand on examine, justement, les fragments de roman, donc, qu'il n'a pas achevé, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hésitation, et une hésitation qui sans doute est fondée sur un facteur extérieur de je vais pas dire d'intimidation, mais disons de comparaison avec ce qui se faisait à l'époque.
Et du coup, effectivement, la nouvelle, et en particulier la nouvelle de Stefan Zweig, qui est extrêmement maîtrisée, on sent qu'effectivement il sait depuis la première ligne quelle va être la chute. D'ailleurs, la chute, c'est toujours important dans les nouvelles de Stefan Zweig. Ces objets, presque un peu trop manufacturés, vous allez me dire ce que vous en pensez, ils sont là aussi pour se rassurer. Cette forme de la nouvelle, si précise, si belle dans sa mécanique, c'est aussi pour se rassurer que l'on va plaire au public.
Oui. Pour vous répondre, je vais vous livrer le fond de ma pensée sur cet homme qui avait l'âge exact de mon grand-père. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu parler, que j'aurais pu rencontrer, etc. Donc je me suis placé en position de familiarité pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Ma conviction, alors c'est la mienne et je ne veux pas l'imposer, mais je pense que Zweig était un garçon tellement doué, tellement talentueux, jeune, à 19 ans, il publie ses premières nouvelles à l'âge de 19 ans, qu'il s'est ensuite dispersé dans toute une série de directions.
Oui, parce qu'il faisait aussi des conférences.
Voilà, des conférences, du journalisme, des chroniques, des voyages, des rencontres, etc., etc. Donc c'était une vie dont il a dit lui-même qu'à certains moments, elle était usante. Et donc, ça, c'est un des facteurs qui, évidemment, son contraire, sauf dans de rares cas, à l'écriture d'un roman. Et d'autre part, beaucoup des nouvelles qu'il écrit ont en réalité en elles-mêmes, la substance d'un roman, bien qu'elle semble avoir l'économie d'une nouvelle, la brièveté d'une nouvelle. Quand je dis la brièveté, il est arrivé qu'il écrive des nouvelles si longues qu'elles sont aujourd'hui décrites comme des petits romans par les éditeurs, par le monde de la diffusion. Et je pense bien sûr aux plus connues d'entre elles pour cette longueur, mais même une nouvelle comme La lettre d'une inconnue qui peut sembler d'une terrible simplicité et durer le temps de la lecture par un homme d'une longue lettre qu'il reçoit d'une femme qu'il a connue et non connue, peut tout à fait être imaginée comme la matrice première d'un roman d'une nature tout à fait anticipée, tout à fait actuelle, qui s'installerait dans cette histoire pour en faire quelque chose de beaucoup plus long. Voilà.
Mais vous ne croyez pas que justement c'est par besoin de séduction, parce qu'on sait que c'est un séducteur, qu'il préfère utiliser la forme nouvelle, maîtrisée totalement du début à la fin, alors que vous le dites vous-même, il y aurait de quoi faire un roman de ces sujets, mais lui veut que ce soit absolument parfait et que ce soit efficace. Par exemple, le suspense est toujours très présent dans les nouvelles. La chute, je le disais, est aussi extrêmement travaillée. Il y a cette idée que le lecteur, à un moment donné, doit être étonné par la chute. Il y a un côté spectaculaire quand même de ces nouvelles qui fait quelque chose, qui le rend particulier, Jean-Pierre Lefebvre.
C'est vrai. Beaucoup de ces nouvelles fonctionnent selon ce schéma-là, c'est-à-dire la création d'une tension, l'exhibition d'un moment critique, et puis ensuite des résolutions plus ou moins surprenantes, parmi lesquelles il y a la mort d'ailleurs aussi. C'est vrai. Mais d'un autre côté, justement, quand on examine, y compris d'ailleurs dans les traductions qui ont été faites, les traductions contemporaines qui ont été faites, quand on examine la façon dont les ressorts fonctionnent, hein, de cette horlogerie un peu fine que constitue une nouvelle, on se rend compte qu'il est assez proche de la trame des romans à suspense qui naissent. Il y a une étude de Krakauer pratiquement contemporaine là-dessus, sur le roman policier, hein, et qui donne lieu à des œuvres beaucoup plus longues, mais qui malgré tout se terminent par des surprises, enfin par des chutes.
Allez, on va rajouter encore une touche de glamour à cette émission. Voici qu'arrive Fanny Ardant.
Ce qui me frappe dans les personnages de Zweig, c'est le gâchis. Il suffisait d'un petit rouage qui aurait fonctionné d'une autre façon pour que les gens s'épargnent beaucoup de douleurs, s'épargnent beaucoup de chagrins, s'épargnent beaucoup de malentendus. Alors dans Amok, c'est le personnage du Dr Steiner et elle. C'est un gâchis parce que c'est quand même deux personnages qui étaient faits pour se rencontrer, et puis parce qu'ils n'ont pas été au même moment dans le même état d'âme, alors ils se détruisent. Bon, toujours quand on est à l'extérieur, on trouve toujours une solution aux problèmes des autres, mais c'est toujours tragique les romans de Zweig, parce que, oui, le gâchis, on passe son temps à regarder ailleurs que là où il faudrait regarder. Le temps est passé, c'est trop tard.
Fanny Ardant au micro de Dominique Rousset en 1993. Vous êtes d'accord avec cette idée que les personnages de Zweig, Jean-Pierre Lefebvre, sont des personnages qui gâchent leur vie ?
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense qu'elle projette un peu, par exemple dans le cas de Amok, une hypothèse à laquelle elle a songé, elle, et c'est comme ça que fonctionne, et d'une certaine manière, elle rend justice à la manière dont Zweig écrit.
Avec elle-même projette sa propre personnalité,
voilà,
que c'est une analyse de Fanny Ardant.
L'histoire disponible pour toute une série de projections, et ça, c'est le ressort de la réussite. Mais dans le cas d'Amok, ce sur quoi, j'allais dire Freud, mais ce sur quoi Zweig insiste bien sûr beaucoup, à mon sens, et aussi parfois ce qu'il suggère avec délicatesse et doigté, ce sont les forces qui font que justement rien n'aurait pu empêcher que ça se termine mal. Et que cette histoire était fortement condamnée d'avance, même si une histoire fortement condamnée d'avance engendre toujours le désir que partage donc Fanny Ardant, que cette histoire, malgré tout, malgré la puissance des forces négatives, surmonte la difficulté. Donc c'est imputé à... Ça peut être imputé à un petit hasard. Parfois, Zweig effectivement présente les choses comme surgissant à l'occasion d'un fait qui est de l'ordre du hasard. Mais bien souvent, les choses sont annoncées très tôt. Par exemple, une des plus belles, selon moi, une des plus réussies des nouvelles de Zweig, elle n'est pratiquement pas connue. C'est celle que j'ai traduite moi-même pour ce volume.
Vous en avez traduit deux, en fait.
J'en ai traduit uniquement deux, et encore parce qu'il y a eu des défaillances. Au départ, je ne devais pas en traduire. C'est un redoublant. Donc, c'est une histoire d'écolier qui finit à l'occasion d'un... Enfin, à l'issue d'un raptus qui s'empare de lui dans la classe, dans un conflit avec son professeur, qui prend ses clics et ses claques, qui file, etc., qui enjambe le parapet et qui se jette dans le fleuve et qui meurt. Donc c'est un raptus suicidaire. Et en même temps, dès le début, Zweig a 20 ans quand il écrit ça, 19-20 ans. Dès le début, un certain nombre de ressorts sont mis en place, de frustrations profondes, par petites touches. Donc ça paraît vers 1900. Hein. Donc l'interprétation du rêve n'est pas encore parue quand il écrit ça, qui font que, comme dit Fanny Ardant, justement, en utilisant la notion de tragédie, hein, la tragédie, c'est quand c'est déjà là. Hein.
Amok, donc, c'est une nouvelle qui est peut-être parmi les plus connues, avec La confusion des sentiments, 24 heures de la vie d'une femme. Fanny Ardant y faisait référence. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous intéresse en particulier?
Elle m'a intéressé à plusieurs titres. D'abord, il y a un problème, disons, culturel, en ce sens que Amok en allemand, c'est un terme archi courant, qui désigne un comportement comme ça, délirant, brutal, mortel. Ça se dit en parlant d'un automobiliste, d'un type qui devient fou, qui tue tout le monde. C'est comme ça que tout ce qui s'est passé, les fusillades aux États-Unis, c'est toujours décrit avec amok, amok, amok. Bon. Et donc il y avait ce phénomène. Par ailleurs, ça se passe dans les îles indonésiennes, enfin dans les grandes îles au bout de la Malaisie. Et c'est un lieu qu'il a visité, donc il a visité, bon, plus ou moins, mais disons, il a respiré un peu une certaine atmosphère. Et il y a cet aspect, il y a aussi une perception un peu détournée du colonialisme à la fois britannique et batave, qui a laissé des traces très très importante, mais qui est aussi présent dans la mise en place du réseau de ressorts violents qui s'expriment dans les gestes de ce type, mais pas seulement. Le plus violent dans cette affaire, c'est la mort de cette femme en couche à la suite d'un adultère, et que ce médecin a refusé de soigner. Et d'une certaine manière, toute la violence qui suit se déploie autour de l'histoire de cette femme. Et ça ouvre bien sûr la question du rapport tout à fait particulier que Zweig a entretenu très très tôt avec les lectrices.
Alors je vous propose d'écouter un extrait justement de Amok.
Vous pensez donc, vous aussi, qu'on a quelques devoirs, qu'on a le devoir d'offrir sa bonne volonté.
Trois fois, il redit la phrase. Cette façon sourde et obtuse de répéter les choses me fit frissonner. Cet homme était-il fou ou bien ivre? Mais comme si cette supposition avait passé mes lèvres, comme s'il avait entendu, il dit soudain d'une voix toute différente.
Vous me croirez peut-être ivre ou fou. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas encore. Seulement, le mot que vous avez prononcé m'a ému bien étrangement. Bien étrangement parce que c'est cela qui me tourmente. Je voudrais savoir si l'on a quelques devoirs. Le devoir. Et sachez que je suis médecin. Et pour un médecin, il y a souvent de tels cas, des cas si terribles, enfin, oui, disons des cas extrêmes, où l'on ne sait pas si l'on a le devoir. Enfin, il n'existe pas qu'un devoir unique, celui qu'on a envers autrui. Mais il y a aussi un devoir envers soi-même, un devoir envers l'État et un autre, envers la science. Il faut être secourable, certes, c'est précisément l'obligation du médecin. Mais ces maximes-là ne sont jamais que de la théorie. Dans quelle mesure, en effet, doit-on se montrer secourable? Or, si je vous demandais de m'empoigner et de me jeter par-dessus bord, ici, certainement, s'arrête la complaisance, l'obligeance.
Voilà, Jean-Pierre Lefèvre, le cas de conscience justement du médecin dans Amok et ce mot de devoir qui revient sans cesse.
Oui, et comment dire, très intelligemment, Zweig n'a pas seulement fait dire à cet homme qu'il est médecin et qu'il a un serment d'Hippocrate derrière lui et un sens du devoir médical, mais il a dit auparavant dans la nouvelle, il a suggéré, alors est-ce qu'il le dit juste avant ou juste après, je ne m'en souviens pas, mais que c'est aussi un Allemand qui a affaire à une Anglaise qui a trompé un mari batave, etc. Vous voyez, il y a une espèce de jeu de culture là, dans lequel le fait que ce médecin soit allemand, qu'il ait une histoire de médecin allemand qui a dû quitter sa première place à la suite d'une histoire hospitalière, mais dans le noyau de laquelle il y avait une histoire de femme, etc., etc. Donc c'est un homme qui traîne toute une série de frustrations, voire de traumatismes derrière lui, et qui les gère avec une espèce de moralité, disons plutôt allemande, Peut-être que le batave ou le médecin, s'il était anglais, ne se poserait pas du tout les questions dans ces termes-là.
Et lui-même, alors, Stefan Zweig, a-t-il une mentalité qui le rapproche plutôt de la mentalité allemande, comme on peut l'imaginer?
Non, c'est un Viennois. C'est un Viennois avec bien sûr, c'est un pays de langue allemande, de culture allemande. Mais il y a un rapport très spécial à l'Allemagne chez les Viennois de l'époque et chez les Viennois d'aujourd'hui encore, qui a été rapport qui a été travaillé par de grands traumatismes, notamment au début de la guerre 14-18, enfin ces massacres qu'ont subi les Autrichiens la première année. Dans une guerre qui, bon, pour beaucoup, n'était pas comprise. Et puis ensuite, bien sûr, à partir de 33, tout ce qui arrive à ceux qui sont sommés de partir, l'Anschluss en 38, toute une série de violences qui vont révéler les choses. Mais le rapport est déjà là. Le rapport à l'Allemagne est déjà virtuellement constitué.
Et vous dites que l'intérêt de Zweig pour les processus et interactions psychologiques n'est pas une dimension majeure de la culture allemande. Vous avez dit ça au magazine littéraire. C'est ça précisément qui le distancie de la manière dont on réfléchit. Faut pas essentialiser, bien sûr, mais
oui, je dirais que il est plus proche de toute une série de démarches intellectuelles qui ont plutôt leur biotope dans l'Autriche-Hongrie et puis en France également et éventuellement ailleurs. Donc les problèmes psychiques ont été, il y a une tradition allemande, il y a une psychiatrie allemande, l'un des grands maîtres de la psychiatrie est allemand, Kraepelin et etc. Mais justement l'approche analytique ensuite va complètement modifier les choses.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
15h31 sur France Culture. Comme chaque jour, nous marquons une pause dans cette émission pour aller voir ce qui se passe du côté des revues. Et voilà qu'à la table du studio 108 nous a rejoint Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes un lecteur de Stefan Zweig, Michel. Je vous imagine bien mener une existence un peu à la viennoise, justement, buvant des cafés, lisant des journaux du côté du boulevard Saint-Germain.
Oui. La vérité m'oblige à dire que j'ai été un lecteur de Zweig et je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Ce n'est pas par dépit, mais parce que les années passent et la lecture.
Vous avez tout lu, ça y est. C'est
non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout tout lu. Mais ce que j'ai lu m'a énormément marqué au moment où je le lisais. Je pense évidemment notamment au Monde d'hier, qui a été, enfin, en tout cas pour moi, un livre majeur dans mes années 80, à une époque où l'Europe était en train de vivre le commencement d'une dislocation qui a abouti à la chute du mur. Donc c'était comme une deuxième fin de monde. Enfin,
et là, vous pouvez le relire une troisième fois parce que il y a des petits problèmes au niveau de Bruxelles en ce moment.
Et ça m'a énormément marqué. La lecture que j'ai faite de Zweig à ce moment-là, c'était comme si j'avais en face de moi la pendule même de la culture européenne qui avait donné qui avait sonné l'heure de la fin. Enfin, ça, c'est tout à fait extraordinaire.
Jean-Pierre Lefebvre, est-ce qu'on relit Stefan Zweig? Parce que c'est vrai que souvent, on dit que c'est un auteur qui permet d'accéder à la littérature. Bon, évidemment, Michel Crépu avait accédé à la littérature bien sans cela, mais ça l'a sans doute encore conforté dans son choix. Est-ce qu'on relit Stefan Zweig avec autant de plaisir?
En tout cas, on relit. Et certainement avec un regard différent, parce que justement, c'est, comme disait Michel Crépu, c'est une lecture qu'on fait à un certain âge, qui produit les effets qui sont possibles à cet âge-là, qui ensuite se déploie ailleurs. Et puis, ultérieurement, j'ai plusieurs témoins proches en tête, de gens qui relisent, par exemple, La confusion des sentiments.
Et qui y trouvent des choses nouvelles.
Oui, non seulement ils trouvent des choses nouvelles, mais qui lisent les choses avec une sensibilité qui a été travaillée par l'évolution des mœurs. Dans La confusion des sentiments, il est clair que la question de l'homosexualité, sa place dans la culture, dans le champ politique, dans le champ social, etc., a tellement bougé par rapport à l'époque où Zweig écrivait, où bien des choses étaient taboues, qu'il vaut la peine vraiment de relire ce genre de texte.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on est toujours en empathie, finalement, avec ce professeur qui est obligé de cacher son amour pour son étudiant, et alors que les mœurs ont beaucoup changé.
Non seulement on est en empathie avec le professeur, mais on est aussi en empathie avec l'étudiant lui-même et avec la femme. Enfin, les empathies vont s'enrichir, en quelque sorte, de tout ce qui a bougé, et que Zweig a sans doute anticipé, perçu dans ce qui se passait autour de lui.
Alors revenons donc à nos moutons, la Nouvelle Revue Française, Michel Crépu, pour laquelle vous êtes ici. En une du numéro qui se trouve en kiosque, c'est le numéro de l'été, hein, parce que le prochain paraîtra le 15 septembre, eh bien se trouve un article de Grégory Schneider, intitulé « Platini en quatre actes ».
Mmh. Oui, Grégory Schneider s'occupe au journal Libération, je le dis pour les lecteurs qui seraient, les auditeurs qui ne serait peut-être pas au courant, s'occupe du sport à Libé. Et j'avais été extrêmement frappé il y a un an ou deux par la portrait qu'il avait fait du footballeur français dont le nom m'échappe, qui est parti jouer aux États-Unis ensuite et qui avait été moqué pour avoir triché au moment de la sélection pour la Coupe du Monde.
Ah oui.
Son nom m'échappe. Mais le portrait que Grégory Schneider a fait de lui m'avait absolument estomaqué. Je m'étais dit, mais c'est un écrivain qui fait ce travail. Et donc je suis entré en contact avec lui à la suite de ce premier texte qui était paru dans Libé.
C'était Thierry Henry, non ?
Thierry Henry, voilà. Nous sommes vus, nous avons sympathisé. Il était tout à fait stupéfait que la NRF lui ouvre la porte sur des sujets qui sont peu familiers de la NRF, et il n'y a aucune raison que ça reste comme ça.
Et donc, d'ailleurs, vous allez monter une équipe peut-être avec les collaborateurs de la NRF.
On va faire une équipe, le NRF Club, Olympique Club. Et alors, il avait fait un premier texte pour la revue où il envisageait comme ça quatre situations où le football est présent. Un match en Biélorussie avec la mafia, un match à Londres où les joueurs arrivent en Rolls pour l'entraînement. Ben, il avait fait comme ça une espèce de petite planète vue à travers le foot. Et là, pour ce numéro d'été, c'était un projet qu'il avait en réalité depuis longtemps. Comme un écrivain a ses hantises, le personnage de Platini, l'aventure de Platini, le destin de Platini, il avait envie de l'écrire.
Le destin qui est devenu encore plus tragique ces derniers mois.
Ces derniers mois, comme nous le savons. Et donc j'étais très très heureux, et il va continuer à écrire pour la revue, j'ai très très heureux que c'est pas une nouveauté de dire que le sport et la littérature entretiennent des relations de complicité profonde, mais on parle souvent du Tour de France, moins du foot et des écrivains, et là on a vraiment quelque chose de formidable.
Un autre
et au sommaire
de
ce même numéro, alors tout à fait différent, un très beau texte de David Bosque, descrit qui s'appelle Le Royaume et qui est la description d'une ville. Donc on peut penser à ce qu'avait fait autrefois Jean-Christophe Bailly, la description de Lodz chez Christian Bourgois, qui est un très beau texte sur le mystère urbain, le mystère de la ville. David Bosque l'a fait là à sa façon à lui, qui peut aussi rappeler un certain Gracq d'une manière tout à fait magnifique.
Merci Michel Crépu. Tout cela et donc bien plus encore. Il y a du Welbeck aussi dans la NRF de cet été à retrouver donc en kiosque. Il faut se dépêcher. C'est jusqu'au 15 septembre. La compagnie des auteurs reprend son chemin à travers les mondes de Stefan Zweig. Nous sommes avec le germaniste Jean-Pierre Lefebvre jusqu'à 16h.
Romain Rolland vint m'ouvrir et me conduisit dans sa chambre, tapissée de livres jusqu'au plafond. Son savoir vous illuminait par son étendue. Ne vivant, en quelque sorte, que par ses yeux de liseur, il possédait la littérature, la philosophie, l'histoire, les problèmes de tous les pays et de tous les temps. Nous parlâmes de Jean-Christophe. Romain Rolland m'expliqua qu'il avait essayé de s'acquitter par cet ouvrage d'un triple devoir en exprimant sa reconnaissance à la musique, sa foi en l'unité européenne et un appel à la conscience des peuples. Tous, nous devions agir, chacun à sa place, chacun dans son pays, chacun dans sa langue. Il était temps d'être vigilant et toujours plus vigilant. L'absurdité était visiblement à l'œuvre et la lutte contre elle était même plus importante que notre art. Je sentis qu'il s'affligeait de la fragilité des constructions humaines. Et cela était doublement saisissant dans un homme qui avait célébré dans toute son œuvre l'éternité de l'art. « Il peut nous consoler chacun en particulier, me répondait-il, mais il ne peut rien contre la réalité. »
Ce portrait de Romain Rolland par Zweig, lu par Michel Duchaussois, Jean-Pierre Lefebvre, c'est le portrait d'un admirateur, c'est presque un portrait de fan.
Tout à fait. Bon, un fan qui a fini par prendre quelques distances, enfin, à qui l'histoire, le développement historique dans cette zone de l'Europe a fait prendre des distances par rapport à d'autres, et ce qui n'a jamais mis un terme ni à l'admiration, ni, je crois, à l'admiration et au sentiment de Zweig pour Romain Rolland.
Qu'est-ce qu'il admirait précisément ? Est-ce que c'était le prix Nobel ? Est-ce que c'était l'homme qui avait des engagements plus forts que Zweig lui-même.
Il y avait comme ça la conjonction de plusieurs qualités de Romain Rolland. Je pense que l'apparence physique même de Romain Rolland l'a impressionné. Enfin, il a trouvé une majesté, enfin, dont il a déjà parlé. Et souvent, on oublie cet horizon-là des affects. Et il a évidemment beaucoup admiré les premières œuvres. Il a notamment, bien sûr, Jean-Christophe, qui est quand même un roman. Enfin, moi, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais enfant, je veux dire enfant vers 12-13 ans, c'était une œuvre tout à fait, comment dire, dans les cordes, dans les catégories, disons.
Le premier roman européen, disait.
Oui, voilà, un roman qu'à certains égards on peut juger utopique, en ce sens qu'il a été, il a subi l'affront de l'histoire et des divisions et des impossibilités, et on vit encore ces clivages qu'il s'agissait de surmonter pour Romain Rolland. Il a admiré beaucoup l'homme politique pacifiste, s'installant en Suisse, à Villeneuve, au bord du lac Léman, etc., se mettant à distance et ne voulant pas entonner tous les hymnes martiaux qui se chantaient de part et d'autre. Et il a participé donc à ce mouvement pacifiste dans lequel on trouve toute une série d'hommes d'Allemagne, de France et d'ailleurs, comme Henri Barbusse, par exemple, et d'autres. Voilà. Et puis, il a aussi eu beaucoup d'admiration pour la culture musicale de Romain Rolland. Et il partageait l'un et l'autre. Ça a d'ailleurs parfois été presque un facteur de fâcherie. Partager l'amour des acquisitions d'autographes ou d'objets. Donc on peut dire qu'il partageait un certain fétichisme.
C'est d'ailleurs assez étonnant, cette collectionnite de Zweig.
Oui, mais à mon sens, c'est quelque chose de très important chez lui. Je veux dire que lorsque il a été dépossédé de tout ce qu'il avait acquis au hasard des salles des ventes, tout ce qu'il avait essayé d'organiser sous la forme d'une collection avec un catalogue et qu'il considérait comme une partie importante de sa vie et de son œuvre, en quelque sorte.
Vous iriez jusque-là, c'était son œuvre, sa collection.
Je pense, non pas, mais je pense que sa collection faisait partie de son œuvre et de son rapport à autrui, car évidemment elle était faite pour être exhibée, justement il fallait faire un catalogue, et je crois qu'il tenait beaucoup à être l'homme qui possédait les partitions de Haydn, de Beethoven, de Hölderlin, de Nietzsche, etc., qu'il a possédé et dont il a été démuni par des pillages de la Gestapo pour ce qui se trouvait chez lui. Et ensuite, c'est ce qui lui a permis, je pense, de survivre, car il a quand même pu emporter une partie de cette collection et la vendre, et il n'est pas le seul dans son cas, des victimes donc de l'expatriation forcée qui s'en sont sorties à l'étranger en vendant des manuscrits.
Mais alors, c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu sens quand on met tout ensemble et tout à côté. Cette espèce d'amour, alors non seulement pour Romain Rolland, mais aussi pour Hofmannsthal, pour Hess, qui d'ailleurs ne lui paye pas tellement de retour.
Non.
Mais à chaque fois qu'il voit ces gens, il leur déclare qu'il est totalement amoureux de leur œuvre, de manière sans doute un peu disproportionnée. Il y a cette collectionnite qui n'est pas n'importe quelle collection, puisqu'il s'agit de prendre des morceaux de grands personnages qu'on admire. Et puis il y a les biographies, énormément de biographies, c'est-à-dire consacrer, presque sacrifier une partie de son œuvre pour écrire la vie des autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce rapport justement aux grands hommes qu'avait Stefan Zweig?
Bon, d'abord, il était installé dans un créneau productif. Il avait écrire une biographie, c'est tout un univers technique. C'est-à-dire que on s'entoure de collaborateurs, dont les gens font encore comme ça aujourd'hui, qui ramassent de l'information, qui lisent, qui prennent des notes, etc., qui lui fournissent le matériau.
Et encore, c'est de l'artisanat.
C'est comme ça qu'il travaillait à Salzbourg, notamment. avec un secrétariat, puisque lui-même ne tapait pas à la machine, écrivait tout à la main. Et il utilisait donc ses livres qu'on lui avait préparés, ses notes, etc. Et il écrivait assez rapidement ses biographies, et cette rapidité était bénéfique pour l'écriture. Disons que le texte qu'il écrivait avait une bonne respiration, c'est celle que donne la rapidité dans l'écriture. Et il lui arrivait d'écrire sur des coins de table, il avait accumulé tout, il savait que bon, tel chapitre, il était mûr dans sa tête, il pouvait se passer des documents, il écrivait, et il entrait, il faut le dire, assez souvent dans des univers qui étaient plus romanesques qu'historiques, notamment quand il s'agit de Marie-Antoinette.
Ce qu'il assumait d'ailleurs assez bien.
Ce qu'il assumait tout à fait. Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'époque, on n'avait pas la même perception de ce qui constitue le sérieux d'un historien qu'aujourd'hui.
La biographie anglo-saxonne est passée par là.
Oui, l'exigence n'était pas la même et on s'intéressait à des choses. Il n'y a qu'à se souvenir de nos propres livres d'histoire. Bon, moi, dans mes années 50, mes livres d'histoire, ils étaient un peu écrits dans cet esprit-là, c'est-à-dire l'esprit des historiens de l'époque. Par exemple, pour parler de la Révolution française, de Talleyrand, de Fouché, etc., il utilisait un historien qu'aujourd'hui les historiens ne sollicitent plus beaucoup pour leur propre travail. Ils le prennent à témoin, c'est tout. Voilà. Mais je veux dire une chose, c'est que Zweig était un affectif, comme on dit aujourd'hui. Il tombait amoureux des gens, et tout jouait, tout, leurs paroles, ce qu'ils disaient, ce qu'ils représentaient, l'élément physique aussi, leurs propres relations. On a dit que c'était un séducteur, mais il était lui-même facilement séduit, et voilà, y compris par des gens qui n'ont laissé aucune trace et auxquels on ne prête pas attention aujourd'hui. Et à mon sens, dans son amour du manuscrit, par exemple, quand il collectionnait les manuscrits, c'était parce que il voulait voir, il examinait l'écriture pour voir quand elle s'accélérait, quand elle ralentissait.
Enfin, donc il voulait les connaître.
Il voulait les connaître et
proche de ces gens qu'il aimait. C'est pour ça qu'il entreprenait un travail.
Il avait un intérêt pour la dimension physique, naturelle, du travail et de l'individualité des gens qu'il rencontrait.
Alors je ne sais pas s'il était tombé amoureux symboliquement de Julien Green, en tout cas Julien Green allait le voir dans sa maison.
Il était très pessimiste pour l'avenir de son pays. Mais ce qui me frappe quand je pense à lui, c'est qu'il a écrit un essai sur le poète allemand Kleist. Et Kleist, qui était obsédé par l'idée du suicide, s'est tué dans des circonstances particulières. Il avait une maîtresse avec qui il avait décidé de finir ses jours. Il voulait se tuer avec elle. Et tous les deux avaient décidé de faire d'abord un bon repas à la campagne. Et après avoir bu et mangé, ils sont allés pas très loin de là, dans une prairie. Ils sont assis sur l'herbe. Et Kleist a tué cette femme et ensuite s'est tué, se servant du même revolver. Or, ce qui est curieux, c'est que Zweig, dans le livre où il parle de Kleist, parle de ce suicide d'une façon très particulière, en des termes presque dithyrambiques, n'est-ce pas ? C'est une sorte d'exaltation du suicide, de cet acte de courage et de désespoir qu'avait commis Kleist. Or, il s'est passé que Zweig lui-même, en 1941, je crois, et au Brésil, où il s'était réfugié avec sa femme, s'est tué de la même façon dans sa chambre, n'est-ce pas ? Il a tué sa femme et il s'est tué ensuite lui-même. Et j'ai toujours pensé que dans son récit de la mort de Kleist, il y avait une sorte de prémonition de sa mort à lui.
Vous pensez, Jean-Pierre Lefebvre, comme l'écrivain Julien Green, qu'il y a une annonce du suicide de Zweig dans son livre sur Kleist ?
Bien sûr, ne serait-ce que, disons, sur le plan des extériorités, il est clair que les deux choses sont proches, hein, à tout point de vue. Cela étant, pour ce qui est des prémonitions, je veux dire, ça aurait fort bien pu constituer au contraire un obstacle à la répétition. En revanche, je
parce
pense
qu'il n'aurait pas voulu copier, c'est ça.
Et voilà, un geste dont il savait fort bien qu'il n'avait absolument pas la même signification chez Kleist que chez lui, et donc il pouvait redouter que la postérité se penche sur cette comparaison de manière excessive. Cela dit, elle est tout à fait légitime.
Et lui, il y a pensé forcément.
Et il y a évidemment pensé, bien sûr. Mais je pense que il y a suffisamment de gestes suicidaires forts dans son œuvre pour qu'on puisse aller chercher beaucoup plus loin ces facteurs qui ont pu jouer dans la dernière phase de sa vie. Cette mort tout à fait spectaculaire, hein, qui donne lieu à des livres, qui donne lieu même à une bande dessinée,
qui donne lieu à
des films. Ces derniers jours de Stefan Zweig c'est assez souvent très très bien fait, très très respectueux de la réalité, de ce qu'on connaît de la réalité. C'est interprété de manière bien sûr différente. Mais ça exhibe comme ça une espèce d'énigme dans laquelle on est souvent privé dans ses œuvres de ce qui pourrait éclairer loin en amont la personnalité de Zweig et ce personnage. J'ai toujours été frappé par une chose, je sais pas si ça peut sembler un peu grossier, mais j'ai toujours trouvé que c'était un homme caché derrière sa moustache. J'ai toujours demandé comment est sa bouche, à quoi peut ressembler le mouvement de ses lèvres dans sa parole, comme s'il avait toujours voulu garder des tas de choses pour lui. Et à l'évidence, y compris sur le plan politique, par exemple dans Le Monde d'hier, il garde aussi bien des choses pour lui que quelquefois il faut aller pêcher entre les lignes.
Et c'est sur ce mystère de Stefan Zweig que se termine cette émission, le mystère, un thème éminemment zweigien. Merci Jean-Pierre Lefebvre. Comme chaque jour, pour terminer, la compagnie des auteurs, un petit bain de jouvence avec Jacques Bonafé qui poursuit sa remise en forme poétique de la rentrée.
Bonjour. Hier, nous ouvrions poétiquement la rentrée avec ces plages abandonnées, autrement dit pour Stéphane Mallarmé, la tristesse d'été. Le soleil sur le sable, aux lutteuses endormies, en l'or de tes cheveux chauffe un bain langoureux, et consumant l'encens sur ta joue ennemie, il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux. De ce blanc flamboiement, l'immuable accalmie t'a fait dire, attristé, ô mes baisers peureux. Nous ne serons jamais une seule momie sous l'antique désert et les palmiers heureux. Mais ta chevelure est une rivière tiède où noyer sans frisson l'âme qui nous obsède. Et trouver ce néant que tu ne connais pas, je goûterai le phare pleuré par tes paupières pour voir s'il s'est donné au cœur que tu frappas. Étrangement, cette tristesse d'été nous rappelle à la mort qui a marqué juillet et ses plages. Mort prouve que tout est ragot, que peu ou trop ne sont que mots, car toute chose meurt ou sèche. Mort montre que rien est le lot de gloutonnerie et de son pot, de tout ce que luxure lèche. Le triomphe de la mort de Elinande Froimont. En Belgique, le budget alloué à la sécurité sociale diminue, tandis que celui dédié à la sûreté de l'État pour la sécurité des citoyens explose. Lors de la Journée mondiale de la poésie, la poétesse nationale Laurence Vielle souhaite faire résonner le mot « sécurité » avec ce poème. « Sécurité, tranquillité d'esprit. Donnez-moi un peu de tranquillité d'esprit, messieurs, dames, sans état d'âme. » Moi, j'ai besoin d'un toit, de quoi manger pour mes enfants, des soins et peut-être un jardin à cultiver. Nommer dans mon pays un ministre au bonheur pour ma sécu, sérénité et cœur ouvert à l'autre. Et voyager aussi, guetter bichets, nuages, des chemins pour marcher, relier sans boucan, des bancs jolis pour se parler, des arbres à nos côtés pour nous pousser à demeurer. Apprenez-moi musique, apprenez-moi poème. Avivez vos désirs de beauté. Vous dites chaque jour, il faut oser encore faire des économies. Le coût de la sécu, il ne fait que grimper. Arrêtons cette hausse. Et la sociale sécurité qui partage bien-être pour tous, fort et fragile, qui porte paix à l'âme, s'étrique encore un peu, tandis que meurt de froid un homme dans ma cité. L'autre sécurité, vous nous la brandissez tank tank sur nos pavés. Citoyennes, citoyens, pour votre bien, nous débloquons millions, millions d'euros. Sécu, sécu, sécur. Sécurité, c'est pour votre sécurité, père, mère, toute la famille, devant télé à peur, reste chez soi. À cette sécurité-là, messieurs, dames, qui pour nous gouverner, je n'y crois pas.
Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé, dans la compagnie des auteurs. Merci à vous, Jean-Pierre Lefebvre, pour cet éclairage sur l'œuvre de Stefan Zweig. Vos publications, elles sont répertoriées sur notre site internet. On peut mentionner en particulier l'anthologie bilingue de la poésie allemande en Pléiade, tout comme les œuvres complètes de Zweig que vous avez dirigées. C'est également en Pléiade. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jean-Guilain Meige. Un grand merci à Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et notre petite nouvelle, Eva Lesseau, pour la préparation de cette émission. Demain, détour par Freud pour analyser les rapports de Zweig à la psychanalyse. Ce sera en compagnie d'Edmundo Gomez-Mango. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons de la correspondance de Zweig, avec notamment celle qu'il entretenait avec Joseph Roth et Arthur Schnitzler. Ce sera en compagnie de Pierre Desus.